Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui avec notre invité, le Rav Uri Cherki, bonjour.
Bonjour.
D'un sujet qui est très actuel, puisque précisément en ce moment même se passent des choses en Israël par votre intermédiaire, Rav Cherki, concernant la vocation universelle du peuple juif, ou plutôt du peuple hébreu revenu sur sa terre, puisque nous sommes sur ce site, Manitou l'Hébreu, et cette démarche que vous avez emprunté est directement lié, on va dire, à l'enseignement de Manitou, à la pensée de Manitou, c'est-à-dire que le juif particulier revenant en Israël devient un hébreu à vocation universelle et qui a la nécessité, enfin qui a le devoir même de faire rayonner universellement ce qu'il y a dans la pensée juive notamment. Alors peut-être d'abord expliquez-nous quel est le sens de cette démarche, comment elle se présente, quelle est l'idée principale que vous avez mis en mouvement depuis déjà quelques temps.
Oui, effectivement, comme vous avez déjà tout dit, et remarquablement, Israël a évidemment une mission universelle depuis son origine. En fait, il est déjà dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, il va de soi qu'il y a un contenu universel au judaïsme, c'est-à-dire qui a été prouvé dans l'histoire, ne serait-ce que par les intermédiaires filtrant le message d'Israël, tel la chrétienté et l'islam. De fait, le peuple juif avait perdu l'habitude de s'occuper des autres pendant le temps de l'exil, et ce pour deux raisons. Soit parce qu'il était occupé à sa survie immédiate, soit parce qu'il était occupé à se fondre dans le décor pour ne pas trop apparaître. C'est en fait ce qui s'est passé depuis l'émancipation. Donc le retour à notre place naturelle, à un État hébreu, est pour nous une certaine surprise. Ça nous remet les horloges à l'heure. Ça nous engage donc à avoir un message adressé aux nations, non pas tellement par, si vous voulez, par paternalisme spirituel ou politique, à la manière d'un colonialisme qui voudrait transmettre sa civilisation aux autres, pas du tout. Il s'agit en fait de répondre à une attente. De la part des nations, il y a une attente, il y a un mystère d'Israël qui est vécu chacun à sa manière, soit un mystère dans le sens mystique du terme, soit un mystère dans le sens d'une interrogation pure et simple. Qu'est-ce que font enfin ces Hébreux en pleine modernité qui reviennent sur leur terre? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Vous connaissez certainement Jean-Jacques Rousseau qui disait dans l'Émile qu'il ne pense qu'il ne comprendra les Juifs que lorsqu'ils auront un État, avec des universités et des académies où ils pourront s'exprimer sans crainte.
Incroyable.
Oui, c'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Et donc le moment est venu. Effectivement, on peut discerner dans l'écoute de l'ensemble de l'humanité cette recherche. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cette écoute parfois devient une animosité. Il n'y a pas d'indifférence. L'animosité, effectivement, il y a une condamnation diffamatoire à l'échelle de la planète d'Israël, État, peuple confondu, peu importe. Et c'est en fait le fruit d'une déception. Si on analyse ça très profondément, il y a ici une déception. Comment ces Hébreux qui avaient quelque chose à nous dire ne le disent pas? Or, cette tradition universelle existe. Elle est connue dans la littérature rabbinique, elle est connue par les maîtres, et le moment est de la mettre en place. Il s'agit du noachisme. Alors, le noachisme, on peut le voir de manière extrêmement réduite comme étant l'exhortation à accomplir les sept commandements noachides qui sont les fondements de la morale naturelle. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est permettre, si vous voulez, une sorte de cheminée pour le monde. Une cheminée qui passerait de la transcendance à l'immanence, qui passerait du créateur à sa créature. Puisque nous en sommes dans les citations, vous savez bien que Pascal avait dit que si jamais la divinité s'est révélée aux hommes, c'est à eux, c'est-à-dire aux juifs, qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. Et donc, cette cheminée commence à être ramonée. Nous sommes un peu les ramoneurs des cheminées du ciel. Il est important pour cela donc qu'il y ait un centre mondial que nous avons fondé, Berit Olam, le centre Noachide mondial, qui justement traite de ces interrogations. Nous sommes en contact avec la planète, en fait, on peut dire.
Sous quelle forme alors? Ça prend quelle forme concrètement?
Essentiellement par un site internet, en sept langues différentes.
On mettra évidemment
l'adresse
de ce site.
Bien sûr, bien sûr. Et nous répondons d'abord à des questions qui nous sont posées. nous proposons des contenus spirituels, comme par exemple un rituel de prière que nous avons formulé à leur demande. Il y a parfois des communautés qui se forment de Noachides dans le monde et qui ont besoin d'une certaine orientation et qui nous demandent des conseils. Il y a également une procédure, justement, comment est-ce qu'on devient Noachide? Il faut passer devant une sorte de mini-tribunal rabbinique dans lequel il y a donc trois rabbins qui acceptent officiellement la déclaration Noachide. Et c'est comme ça qu'on devient Ben Noach, fils de Noé.
Comme Manitou disait, dans les citations que nous avons pour ce site, elle n'est pas Noachide qui veut.
Exactement.
Il faut ça. Alors ça nécessite quoi précisément?
Justement pour parler de Manitou, vous savez que Manitou était assez réticent par rapport au Noachisme aujourd'hui. Il y a eu effectivement une tentative déjà à la fin du 19e siècle avec un Français du nom d'Aimé Palière qui avait tenté d'être le premier Noachide sous l'impulsion du rabbin Benamozek de Livourne. Et ça n'avait pas très bien marché. C'est-à-dire qu'en fait, Aimé Palière n'a jamais vraiment su qui il était, s'il était Noachide, juif, chrétien, qu'est-ce qu'il était. Et cet échec était bien connu de Manitou, qui se demandait donc est-ce que ça serait réalisable un jour? Comment peut-on être dans la périphérie d'Israël et ne pas vouloir rentrer dans l'intérieur? C'est une interrogation, disons, logique, philosophique.
C'est un état stable, vous dites-vous qu'il y a un état, une possibilité?
Oui, alors, disons que moi je prends acte d'un fait existentiel. Le fait existentiel est que le noachisme existe et qu'il y a de nombreux membres des nations qui ne veulent pas s'associer au peuple d'Israël mais qui ont la foi d'Israël. Et donc, ils se sentent très à l'aise là où ils sont. Et disons que la question du bien fondé logique ne se pose même pas. Donc je prends ça comme un état de fait. Effectivement, la tradition avait déjà prévu ce genre de choses.
Oui. Peut-être qu'il faut que vous disiez, qui avez-vous, avec quelle personne êtes-vous en contact dans le monde? Parce que c'est un phénomène qu'on ne voit pas, dont on ne parle peu,
si vous rentrez...
et qui cependant, quantitativement, finit par être important. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe dans le monde, dans les pays, etc.?
Oui, une évaluation à peu près générale. Nous pouvons évaluer le nombre de Noachides dans le monde à entre 25 et 30 000 personnes qui se définissent comme telles. On les trouve d'un bout à l'autre de la planète. Si vous voulez, extrême nord-est, vous aurez dans l'île de Sakhalin, au nord du Japon. Nous avons des Noachides, nous en avons également à Buenos Aires, en Argentine. Il y en a aux États-Unis, au Canada, à Hawaï, en Amérique latine, en Afrique, en Inde, en Europe, évidemment.
Et ça croît comme
ça? Alors, ça croît. Justement, disons qu'il n'y a pas un mois qui passe sans que je suis averti de la création d'une nouvelle communauté ou d'un nouveau groupe. Parfois, ce sont des communautés entières avec leur chef spirituel, un curé souvent, qui passe justement au noachisme, sans qu'il y ait de notre part une incitation. C'est un mouvement voulu par eux.
Mais est-ce qu'il y a quand même un contrôle? Parce que, après tout, il faut que tout cela soit tout de même... vous aviez parlé des mépalières tout à l'heure.
Oui.
Éviter des déviations ou des erreurs.
Justement, c'est pour ça donc, que nous avons créé une sorte de conseil rabbinique qui s'occupe un peu de ça. Nous essayons donc d'avoir également l'aval du grand rabbinat d'Israël, qui a donné sa bénédiction, mais qui n'a pas encore institutionnalisé la chose, toujours par méfiance, par prudence, pourrait-on dire. Il y a des séminaires que nous organisons, aussi bien pour des juifs et des rabbins qui s'occuperaient des Noachides, aussi bien que pour des Noachides qui sont intéressés justement à devenir des leaders spirituels de leur propre communauté.
Et avec Internet, c'est évidemment facilité.
Et évidemment. Et il faut faire une petite remarque, ce sont des très grands amis, sincères, du peuple d'Israël, de son État. De ce point de vue-là, il y a ici une solidarité qui est très importante, même au niveau politique, et c'est pour ça justement que ça peut intéresser le gouvernement israélien, et que nous sommes en rapport avec des personnages politiques dans la classe israélienne.
Ça, c'est le point un peu où on en est. Oui. C'est-à-dire que vous cherchez, vous, Richerki, à ce que ce nouveau statut soit reconnu et institué par l'État d'Israël.
Absolument.
Comment ça se passe, ces discussions avec Netanyahou en ce moment?
Effectivement, disons que dans les quelques discussions que j'ai pu avoir avec le Premier ministre Netanyahou, il a d'abord eu un très grand intérêt pour la chose, qu'il considère comme étant très importante. Et nous essayons actuellement d'élaborer une sorte de collaboration, d'officialisation de l'action de Brit Olam, du Centre Noachide mondial, avec l'État d'Israël, au nom duquel nous pourrions donc agir. Cela donc peut donner un immense espoir justement à la communauté Noachide qui, là où elle est, se sent un peu isolée et pas vraiment prise en main. À partir du moment où ça devient un sujet considéré comme important par l'État d'Israël, il y a à qui s'adresser. Et ça, c'est effectivement très important.
Alors évidemment, là maintenant, il faut peut-être aussi que les Israéliens, on n'a pas le sentiment forcément qu'ils sont toujours conscients de l'importance qu'il peut y avoir à ce rayonnement intérieur d'Israël vis-à-vis du monde. Il y a aussi peut-être un travail intérieur à faire. Vous avez parlé des grands rabbins, mais pas seulement.
Bien sûr, la société israélienne est en crise intérieure de recherche d'identité, ce qui est très important. Effectivement, les situations de crise sont toujours des occasions de développement. Et on peut dire que ce qui trouble la conscience juive de l'israélien, c'est justement cette idée que le judaïsme serait dépassé, qu'il serait une sorte de nationalisme étriqué, ce qu'il n'est pas, effectivement, selon les sources, mais qui n'est pas vécu comme tel. À partir du moment où l'Israélien apprend qu'il intéresse les nations, alors ça change toute sa vision de son propre judaïsme. Effectivement, nous avons de nombreux témoignages d'Israéliens, de gauche ou de droite, d'ailleurs, qui brusquement découvrent qu'ils représentent quelque chose dans l'histoire. Et ça, effectivement, ça renforce leur identité juive.
Et c'est le point où nous en sommes, où éventuellement, de ce sentiment d'hostilité peut être transformé en sentiment de... Non, mais je parle des nations. Peut se transformer précisément en capacité de saisir un rayonnement inutile.
Si vous avez fait un peu de psychanalyse, alors vous savez très bien que si je suis capable de détester quelqu'un, c'est que je suis capable de l'aimer un jour. On peut dire que l'intérêt... ou même l'hostilité des nations envers Israël, représente en fait une recherche. Et à partir du moment où une porte sera ouverte, une parole sera prononcée, alors je ne peux pas dire qu'il y aura la révolution immédiate, évidemment, mais quelque chose peut changer dans l'état d'esprit universel.
Et quelque chose donc a commencé. Si par exemple quelqu'un qui nous écoute souhaitait rentrer en contact donc, sur ce site, comment ça se passe?
Eh bien c'est très simple, il peut s'adresser à nous à travers benoah.org. Et dans sa langue, il s'adresse à nous. Nous avons des différents rabbins, personnages, etc., qui peuvent répondre dans la langue de la personne et s'occuper de lui. Souvent, d'ailleurs, c'est la demande de contact avec d'autres noachides. Ces gens qui se sentent un peu isolés veulent sentir qu'ils appartiennent à un mouvement. Et nous les aidons dans ce sens.
Merci beaucoup, Rav Shirky, d'avoir accepté de nous donner ces éléments d'information. Ben, on va suivre, évidemment, cette démarche sur ce site. On vous retrouvera peut-être... dans les prochains mois. Merci encore.